13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour et bienvenue. Mon invité aujourd'hui est Yasmine Chami. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir, anthropologue, écrivain, enseignante de littérature. Et vous publiez Mes Déchéris aux éditions Actes Sud. Dans la mythologie et chez Corneille, elle se venge, Médée. Chez vous, elle se venge pas. Pourquoi ?
Ben, la Médée mythique, c'est une femme trahie, et comme la mienne. Hein. Mais parce qu'elle est mythique, elle exprime une colère archaïque en fait. Hein. Elle est dans l'oubris en fait, ce que les Grecs appellent la démesure de la passion et du désir de vengeance. Alors que ma Médée à moi, c'est une réécriture évidemment du mythe, mais très implicite. Enfin, très. Elle est résiliente parce que peut-être parce qu'elle est artiste en fait. Donc il y a tout un travail sur le déplacement de la colère et le déplacement de la sauvagerie finalement.
Elle est plus que résiliente. Hein.
En tout cas, j'espère.
En fait, elle s'appelle Médée, mais en fait, c'est pas vraiment son prénom. Elle s'appelle Nour Médée.
Mais oui, elle a les deux. Elle a la face d'ombre et la face de lumière. En fait, elle a la noirceur de Médée parce qu'elle est confrontée à un destin. Enfin, c'est un coup du destin, cet abandon auquel elle est confrontée. Et puis, en même temps, elle a la lumière de son prénom arabe, Nour, qui veut dire effectivement
lumière.
Voilà.
Mère et sculpteur, donc c'est la Médée de votre livre. Elle est mariée à Ismaël, dont on suppose que c'est un as de la neurochirurgie.
Oui, oui, il l'est.
Qui un jour, eh bien, l'abandonne comme un chien à la veille d'un départ en vacances, c'est vous qui le dites, dans un aéroport.
Oui.
C'est pire que tout comme abandon, finalement. Il s'apprête à vivre un grand voyage, tous les deux. Ils partent à Sydney, et à un moment donné, il lui dit « Reste là, je reviens dans un instant, et il ne revient jamais. »
Oui. C'est en fait... Bon, ils sont mariés depuis 25 ou 30 ans. C'est un vieux couple, hein. C'est un couple avec des enfants, des grands-enfants et même avec des petits-enfants. Et donc Médée, elle vit la sidération. Ça lui tombe sur la tête quelque part. C'est l'accident, c'est ce qui n'est pas prévu. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de décrire la chute. La chute que occasionne la perte quand la perte est radicale. Alors, elle est confrontée à son propre vide à ce moment-là. Il y a quelque chose qui se défait et quelque chose qui se détruit de manière irréversible. Et elle n'est pas jeune en même temps. Elle n'est pas à un moment de sa vie où tout peut facilement être reconstruit. Et donc, finalement, elle est confrontée à la rupture radicale.
Elle n'est pas jeune, mais on sait qu'elle est encore très belle.
Oui, elle est belle, elle est brillante.
Elle est une artiste reconnue,
ouais. Voilà, elle a de beaux enfants. Ce n'est pas une femme... Mais il n'empêche que vulnérabilité surgit à un moment où elle ne s'y attend pas. En fait, ce que j'ai voulu explorer, c'est le surgissement de la faille, en fait. Voilà, c'est tout d'un coup, on tombe, on chute, et rien ne laissait prévoir cette chute, et qu'est-ce qu'on devient, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, rien ne laissait prévoir, ou est-ce qu'elle n'a pas vu ?
Elle a quand même eu des prémonitions.
Hein.
Elle est artiste, elle est intuitive.
Oui, mais... elle fait des rêves. Alors, est-ce que les trahisons sont annoncées par des rêves prémonitoires ?
Les trahisons, en tout cas, cette femme-là, elle est quand même l'arrière-arrière-petite-fille de Médée, hein, de la Médée grecque. Donc, la Médée grecque, sa mère était magicienne, c'était Circé. Hein. Et puis, elle est artiste, donc elle est quand même profondément reliée. Elle a une forme d'intuition presque viscérale, j'ai envie de dire. Donc, oui, elle a une sorte de prémonition de l'effilochement du lien, sans pouvoir nommer ce qu'elle ressent. Et donc, quelque part, vous savez, quand on est dans cette intuition-là, on peut avoir le sentiment de dérailler tout seul. Et donc, elle n'y accorde pas plus d'importance que ça. Elle le transforme en une sculpture. C'est donc Cerbère, hein, c'est quand même le gardien des enfers. Et voilà, elle se garde de son propre enfer, qui est toujours d'explorer les failles, le moment où les liens rompent. C'est quand même son travail, Médée. Hein. Elle passe son temps à la fois à explorer la faille et à la fois à inventer les manières de rassembler, de réunir ce qui a été séparé. Donc, elle a presque un travail prémonitoire. Son travail d'artiste est presque prémonitoire de sa vie, finalement.
Et elle va justement, le traduire avec une sculpture qui, à la fois, va réunir la présence et l'absence.
À la fin, oui. C'est-à-dire quand elle va pouvoir, pas dépasser, mais ressurgir de sa chute et de sa perte intérieure, grâce à une femme réfugiée irakienne, Dame Pipi, hein, Tania, qui en fait va lui tendre la main avec une humanité assez incroyable, l'humanité de ceux qui ont tout perdu justement. Et il ne reste plus que l'humain. Elle va.
Elle, pour le coup, elle a vraiment tout perdu.
Elle a vraiment tout perdu.
Contrairement c'est la guerre. À elle.
Bien sûr. Et c'est ce qui va permettre aussi à Médée, non seulement de relativiser sa perte, mais aussi de mesurer ce que c'est que la vulnérabilité absolue et la puissance extraordinaire de vie et de don et de générosité de cette femme qui, quelque part, la renvoie à sa propre puissance d'être. Finalement, les gens qui ont traversé le miroir et qui ont abandonné tout ce qui ont dû abandonner tout ce qu'ils étaient, nous tendent un miroir dans lequel on peut soit choisir de se perdre, c'est-à-dire finalement refuser ce miroir-là en disant ça m'arrivera jamais, et c'est tous les gens qui tournent le dos à ceux qui ont traversé quelque chose de dur, et puis il y a ceux qui ont le courage de regarder et d'anticiper ce que même porte comme puissance de vie. Et donc finalement, Tania, c'est la figure de la perte absolue, et en même temps, c'est la figure de la vie, de la puissance de vie absolue, pour m'aider. Et donc elle va lui proposer de sculpter effectivement la présence dans l'absence. De donner un visage à ce qui est à la fois présent et absent.
Alors elle entame une introspection suite à au départ de son mari, et elle réalise que finalement c'est de sa faute.
Enfin, c'est de sa faute, non.
En tout cas, moi, je trouve qu'elle lui donne beaucoup de conséquences atténuantes et qu'elle explique que c'est elle-même qui a consenti à sa propre défaite et que petit à petit, elle s'est organisée une vie à son service, à lui.
Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un texte qui explore, en tout cas qui essaye d'explorer, ce que c'est que l'abandon amoureux. Finalement, c'est toujours un texte. C'est un texte qui est vraiment qui tourne autour des schémas archaïques qui nous fondent, nous les hommes et les femmes, autour du bassin méditerranéen, avec la tentation très forte pour les femmes de donner, de s'abandonner, et très forte pour les hommes de prendre. Parce que, alors, est-ce que ce sont des schémas socialement construits? Est-ce que ce sont des archaïsmes du lien? C'est vraiment ce travail que j'ai essayé de faire dans mes dés.
C'est l'anthropologue donc, qui parle.
Oui, enfin, c'est l'être humain, quoi. C'est des questions que je me suis posées, oui, bien sûr, comme anthropologue, mais oui, effectivement. Mais aussi comme être humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans l'abandon amoureux? Il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon. Et est-ce que le don, c'est l'abandon de soi?
Vous savez, la plupart des gens que tu connais, quand ils se sont abandonnés, ils veulent se venger.
Oui, mais
ils cherchent pas toujours à l'expliquer.
Mais
voyez,
avant d'être abandonné, est-ce qu'on ne s'est pas soi-même abandonné quelque part? C'est un peu la question que se pose Médée. C'est un peu la question qui est posée dans ce texte-là. Finalement, est-ce que ce souci de perfection de Médée, de se mettre au service de quelqu'un et l'abandon de sa propre trajectoire, et au fond, elle n'abandonne rien parce qu'elle est là sur le toit de la maison et puis elle sculpte ses créatures qui voyagent dans le monde. Hein, je veux dire, elle n'a rien abandonné en réalité.
Oui,
ben oui, elle est très puissante, cette femme. Mais en même temps, il y a une espèce d'humilité dans le processus de création qui vient convoquer cette très vieille culpabilité des femmes quand elles existent en dehors de leur famille et des liens qu'elles ont créés, comme s'il y avait quelque chose à faire, se faire pardonner à exister aussi puissamment. C'est ça Médée, c'est qu'en fait elle existe puissamment et elle passe son temps à essayer de faire oublier à quel point elle est forte. Et donc elle installe quelque chose de double dans le lien qu'elle a avec cet époux, qui est très conscient de la puissance de sa femme, qui est parfaitement, qui dit à Médée qu'elle opère, elle aussi, aussi bien que lui, mais qu'elle met
d'ailleurs,
au monde.
D'ailleurs, les gestes se ressemblent.
Se ressemblent profondément,
sauf que... Le geste du sculpteur et du chirurgien...
Et en même temps, ils se ressemblent et ils sont presque aux antipodes l'un de l'autre, parce que le chirurgien, il coupe et il suture, et Médée, elle crée et elle suture. Elle crée. C'est très différent. Et c'est là où, quelque part, peut-être s'origine la difficulté de ce qui surgit pour Ismaël, sans doute, dans l'abandon, c'est elle est trop forte, elle enfante et elle réenfante. Elle enfante dans la chair, elle enfante dans la pierre, elle coud, elle découd, elle est toute puissante, finalement, cette femme. Elle est toute puissante. Et lui, il est quand même dans la puissance relative du chirurgien, très grande puissance sociale, et à côté de ça, impuissance face à la mort quand elle surgit, et parfois à l'impossibilité de réparer les vivants. Mmh. Voilà.
Donc, quand elle s'interroge et qu'elle est dans sa période d'introspection, elle se dit finalement, c'est lui qui va plus souffrir que moi. Parce qu'il finalement,
il
perd plus que moi, je perds.
En tout cas, elle l'aime. C'est un homme qu'elle a aimé. Et c'est pour ça qu'elle est très différente de la Médée antique. Il y a en elle, très profondément, la mémoire de l'amour. Et quand on a vraiment aimé, même si on est en colère, et même si on est trahi, et même si on ne peut pas oublier l'humanité de l'autre, Et donc finalement, elle se soucie, elle se demande aussi ce qu'elle n'a pas vu, ce qu'elle n'a pas senti, ce qu'elle n'a pas appréhendé d'une souffrance qu'il aurait vécue à ses côtés et qu'elle, à laquelle elle a été finalement fermée. Il y a vraiment, mais de toute façon, quand quelqu'un part, il y a toujours ce questionnement sur ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas donné finalement, qu'est-ce qu'on n'a pas donné et pourquoi cette personne est partie. C'est ça. C'est-à-dire que paradoxalement, vous savez, moi j'aime pas tellement la logique de la victime et du bourreau. Mais quand vous voyez des victimes, souvent, elles se demandent pourquoi elles ont été victimes. Ça fait partie aussi du statut de cette espèce de névrose, j'ai envie de dire, de des victimes. De pourquoi j'ai été choisie pour être victime ? Finalement, c'est que j'ai fait quelque chose, c'est sûr.
Mais peut-être que l'amour, ça finit aussi. C'est un début.
Oui,
peut-être
oui.
Que l'amour, c'est un début, il y a une fin. Vous dites, ils se sont aimés, mais est-ce qu'elle arrive précisément à savoir à partir de quel moment ils ne se sont plus aimés ?
Bien sûr, c'est la question. Hein. D'ailleurs, dans cette chute, dans cette chambre d'aéroport où elle s'enferme, elle s'isole finalement pour aller au bout de sa propre dévastation. Ce qui tourne en boucle, c'est finalement la fin de l'amour. Voilà. C'est la fin de l'amour. Est-ce qu'il faut accepter que tout est une fin finalement et c'est de là qu'elle va surgir. C'est de l'acceptation de la fin. Il faut accepter la fin pour pouvoir recommencer. Et c'est ça le travail de Médée finalement. La Médée de Ripid, qui est absolument passionnante, elle est dans une colère terrible, têtue et intransigeante et viscérale.
Parce que
la Médée de Ripid, la question qui se pose, et qui est la même que celle qui se pose pour Médée, dans son travail de sculpteur et dans son travail, et dans sa vie de femme et de mère, c'est la question des liens. Qu'est-ce qu'on fait avec les liens ? Parce que quand l'amour disparaît, qui avait fondé le lien finalement, mais qui a donné naissance à d'autres liens, des liens de chair, les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec les liens ? La Médée de Ripid, c'est une réponse radicale. Elle va se délier. D'ailleurs, à la fin de la tragédie, elle monte dans le char de son père, de son grand-père, le Hélios, le soleil, et elle s'envole, elle est déliée. Elle est déliée parce qu'elle a froidement, enfin en tout cas, elle a tué ses enfants, elle a tué le lien de chair, elle a supprimé le lien de chair qui l'unissait à Jason. Alors que cette Médée-là, elle ne supprime rien, elle garde tout finalement, et elle s'obstine à tout garder.
Enfin, elle garde tout parce qu'il lui a tout laissé déjà.
Il lui a tout laissé.
Il lui a laissé beaucoup de choses, en tout cas.
Il a méthodiquement organisé l'abandon.
C'est pire.
Bien sûr que c'est pire. C'est pas un coup de tête.
De réaliser que finalement, tout a été calculé, rien n'a été laissé au hasard, et que peut-être les autres sont complices, et savaient.
Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, effectivement, cet homme-là a médité. Alors Médée, vous savez, c'est celle qui médite. Hein. Médos en grec, c'est celle qui médite, celle qui conçoit. Mais lui aussi, il a médité. Ils ont médité tous les deux. Mais pas la même chose.
Et elle l'excuse, elle dit, mon Dieu, toutes les souffrances que tu as dû avoir, organiser tout ça.
Elle ne l'excuse pas, non, elle ne l'excuse pas du tout.
Ah, c'est quoi ?
Non, elle ne
l'excuse. Elle le comprend,
En fait, c'est une femme qui est profondément intelligente, je dirais, parce que profondément humaine. Et il y a deux solutions face à l'abandon, il y a l'amputation. C'est-à-dire, voilà, vous savez, vous coupez le membre qui vous fait mal, et puis voilà, on n'en parle plus, hein, et vous vivez avec un membre fantôme, toute votre vie. Et il y a un processus beaucoup plus complexe, beaucoup plus qui rend beaucoup plus vulnérable, mais qui finalement peut-être permet de supporter la perte. Et c'est apprendre à vivre dans la faille. Et Médée, elle apprend à vivre dans la faille. Elle va pas contourner la faille. La colère ne la fera pas contourner la faille, justement. La colère, c'est ce qui nous permet de mettre à distance la souffrance aussi. C'est ce qui permet de dire, voilà, c'est un salaud absolu.
Ça fait du bien, ça rassure.
Oui, oui. Voilà, ça rassure, ça rend le monde plus stable autour de soi. Mais elle est au-delà.
Après la colère, on s'écroule, hein, ouais, normalement.
Ouais. Et ben Médée, elle fait un autre chemin, parce que peut-être c'est une artiste, parce que c'est une descendante de la Médée de Ripid, qui a déjà traversé la colère, et que, quelque part... Elle sait bien, en Méditerranée, on est coléreux, hein, et on sait bien ce que ça nous coûte. Et quelque part, cette Médée-là, elle ouvre un autre chemin, qui est un chemin plus difficile, mais qui consiste précisément à habiter, ce que je dis, à habiter la faille. En habitant la faille, on peut construire sa maison.
Yasmine Chami est l'invitée du Book Club. Yasmine, votre livre s'appelle Médée chérie, et c'est aux éditions Actes Sud.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et j'ai invité aujourd'hui Yasmine Chami pour nous parler de son troisième roman, s'appelle Médée chérie, aux éditions Actes Sud. Vous avez mis beaucoup de temps à écrire un deuxième roman, beaucoup moins pour en écrire un troisième. Qu'est-ce qui s'est passé entre votre premier et votre deuxième roman ? Vous aviez autre chose à faire ?
Oui,
Manque d'inspiration?
Non, non, pas du tout.
Tu es heureuse et on n'écrit pas quand on est heureuse?
J'étais mère. Je suis devenue mère de deux petits garçons, de deux jumeaux. Et voilà, l'écriture est un peu concurrente pour moi de la maternité. C'est compliqué pour moi de faire les deux en même temps. C'est impossible même, je crois. Mmh. Nancy Houston a parlé de ce que c'est qu'être une romancière. Et elle a parlé de cette espèce de schizophrénie qui tend les femmes écrivains. D'un côté, elles mettent au monde des créatures de chair dont elles ne peuvent pas envisager la fin. Et de l'autre côté, elles mettent au monde des créatures livresques de papier dont elles doivent envisager la fin. Et donc, je crois que pour moi, cette tension était impossible. Je préfère les êtres vivants.
Ça tombe bien, elle a été éditée par un très bon éditeur.
Oui, il paraît.
Qui accessoirement est le vôtre. Votre livre s'appelle « Mes déchéris », l'histoire de cette femme qui, alors qu'elle s'apprête à partir en voyage, à être potiche peut-être même d'ailleurs, puisque son mari est invité à un congrès qui réunit des grands pontes du monde entier. Donc en général, les femmes suivent.
Mais bien sûr, et elle le sait. Hein.
Et là, elle est abandonnée. Oui. Elle a enregistré son bagage, hein, c'est terrible, parce qu'elle a quasiment fait toutes les étapes dans cet aéroport. On imagine que c'est Paris, l'aéroport, d'ailleurs.
Oui, c'est Paris, oui. Ouais. Elle est en transit, en fait. Elle est en transit. Et de toute façon,
c'est pour ça que les bagages sont partis.
Il la plante en transit. Elle a encore une petite valise, quand même, dans le cas où il y a le nécessaire. Mais oui, elle est en transit et elle va habiter ce no man's land, quelque part. Hein. L'aéroport, c'est le lieu de tous les départs et c'est aussi le lieu de toutes les destinations rêvées et en même temps des destinations impossibles. Pour elle, en tout cas, là, tout devient impossible.
Vous parliez des relations avec les enfants tout à l'heure. Il y a quand même une interrogation, c'est les relations qui l'unissent à sa fille aînée.
Oui, Samia. C'est vrai qu'elle a un rapport très très heureux à ses deux autres enfants, Aya et Adem, surtout son fils.
L'anthropologue, c'est pour ça.
Voilà, elle a un lien très fort. Mais avec sa fille Samia, il y a quelque chose qui, en tout cas pour elle, est difficile. Et en fait, Médée, ce premier enfant, elle a poli une sculpture, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, hein, une sculpture sans veines, sans nervures, dans de marbre blanc. Pure, hein, une sculpture parfaite, ronde, qui tient dans la main,
et qui en fait... À son sixième mois.
Oui, et qui incarne, oui, exactement, le mois où tout se joue. Et finalement, c'est pas dit dans le texte, mais... Enfin, est-ce que ce désir de perfection dans le lien maternel, est-ce qu'elle n'a pas enfermé sa fille aînée dans ce souci de perfection, d'un lien lisse, complètement rond, complètement sans nervure, sans craquelure, sans... Sa fille qui vit à Londres, hein, qui a choisi d'être dans la finance, complètement l'opposé du monde de sa mère, elle est en révolte peut-être contre ses... Et d'ailleurs, Médée a enfermé peut-être aussi son mari dans cette perfection du lien aussi, hein, cette femme qui l'attend, qui gère les enfants, qui est dans la plénitude de la maternité, de sa relation d'épouse, d'amante à cet homme, qui sculpte. Enfin, il y a quelque chose de tellement plein et construit et contrôlé quelque part, hein, qu'on peut bien imaginer presque une sorte d'étouffement dans l'humilité. L'humilité, vous savez, ça a deux versants. Hein. C'est à la fois quelque chose de très fort parce que ça relativise complètement, c'est la capacité à relativiser ce qu'on est et ce qu'on fait. Mais en même temps, il y a une puissance de l'humilité qui peut être très très difficile pour un homme comme Ismaël qui lui est chirurgien, qui est dans l'ego, qui se sent tout puissant, réparateur. Cette humilité permanente de sa femme en face de lui dont il sait la puissance finalement. Et en plus, elle a la puissance de l'humilité, c'est beaucoup.
Elle entame la traversée des apparences, pour reprendre le titre d'un premier roman de Virginia Woolf. Mmh. C'est quoi la traversée des apparences? C'est pas la même que celle de Virginia Woolf, celle qu'elle entame.
Non, c'est pas la même. C'est finalement ce à quoi nous sommes tous confrontés tôt ou tard dans la vie. Hein. C'est la relecture d'une vie, finalement. C'est la relecture de ses propres motivations, de ses propres affects, de ce qu'on a cru faire et de finalement ce qu'on a fait, du rapport entre la réalité et sa représentation, finalement. Toute la question de Médée, c'est ça. C'est ce qu'on vit et ce qu'on se représente qu'on vit et finalement ce que l'écriture représente qu'on vit. Donc c'est tout ce rapport complexe à la représentation.
Comment est-ce qu'elle imagine la femme pour laquelle elle a été quittée?
C'est pas dit dans le texte.
Elle l'imagine pas?
Non. Évidemment.
C'est pas une question? Vous croyez qu'une femme qui est quittée pour une autre ne veut pas savoir à quoi ressemble la nouvelle?
Dans le premier temps de la sidération, non. La question que se pose une femme, c'est à quoi je ressemble ? Pourquoi on me quitte ? À quoi je ressemble ? C'est pas à quoi ressemble l'autre. Pas tout de suite, mais après, oui, bien sûr. Ça vient.
C'est une bonne question.
C'est une bonne question.
Et l'autre ne ressemble pas, alors on ne sait pas.
Ah bah, en tout cas, là, vous ne savez pas, non ?
Non.
Vous pouvez imaginer. Il faut un peu laisser les lecteurs respirer aussi. Hein. Ils ont le droit d'inventer. Écoutez, tout est déjà montré tout le temps.
Dans votre livre, tout n'est pas montré.
Et bah justement,
ça se mérite.
L'écriture, oui, l'écriture, c'est aussi une chasse au trésor. Hein. C'est un petit peu ça, la lecture. La lecture, c'est aussi la capacité à laisser travailler l'imaginaire respectif de l'écrivain et du lecteur qui est inclus dans le texte. En fait, il construit le texte avec l'écrivain. On n'est rien si on n'est pas lu. Donc, vous ne pouvez pas à la fois écrire pour un lecteur que vous imaginez, parce qu'on imagine sur le lecteur, et puis en même temps, ne pas lui faire sa place dans le texte. C'est... Voilà. On n'est pas dans un jeu vidéo.
Non. Je trouve que les phrases sont très longues chez vous. À quoi ça correspond, chez vous, cette idée et cette envie de ne pas mettre souvent des points ?
Vous avez raison, j'ai un problème avec le point. Le point final, surtout.
Alors oui, et la phrase finale aussi.
Oui, tout à fait. J'ai un copain qui m'a même dit que pour lire mes textes, il prenait un masque et un tuba et il plongeait.
Ça donne un rythme,
oui.
Effectivement, mais vos phrases sont très longues.
Oui, ben écoutez, c'est le temps du déploiement du temps dans le texte aussi. Hein. Voilà, c'est probablement lié à ce que fondamentalement peut être l'écriture pour moi, finalement une manière de déposer le temps. C'est ça aussi. Et quand on dépose le temps, on prend son temps. Je ne vois pas. Et en même temps, ce sont des textes qui sont assez courts, parce que la densité... C'est vrai que en ce moment, en tout cas, je suis dans un travail sur la densité, parce que le langage, pour moi, c'est une matière. C'est pour ça que sculpter, c'est aussi mimétique de l'écriture, quoi. Je veux dire, il y a aussi une réflexion sur ce qu'écrire signifie et ce qu'on fait avec le langage et ce qu'on fait avec l'épaisseur du langage, avec la matière du langage.
En quoi est-ce que l'écriture est-elle une aventure matricienne ?
Ça veut rien dire. Bah, ça vraiment, ça veut...
J'ai vu ça dans une interview.
Ouais,
je me suis dit, c'est tellement conceptuel.
C'est débile. Ça veut rien dire. Bon, pas du tout.
C'est quelqu'un qui a sorti ça de son contexte.
Oui, complètement.
Ouais.
En plus, je crois que le mot n'existe pas. Donc,
Ça, on peut l'inventer.
Oui, bon, on peut inventer des mots. Enfin, là, vraiment, c'est sorti. Ça n'a pas de sens. C'est pas du tout.
Alors, c'était pas vous. C'est pas ce que vous recherchez.
Non.
Pourquoi vous êtes intéressé à la trahison ? Parce que c'est un roman sur la trahison.
Tout à fait. Écoutez,
c'est quelque chose que vous avez expérimenté ou que vous êtes imaginé comment vous y réagiriez face à une trahison ?
Non. Enfin, l'expérience de la trahison, on l'a fait, je pense, dès son plus jeune âge. Hein. On a les trahisons d'amitié quand on est petit dans la cour de récréation qui vous laisse par terre. On a la naissance d'un enfant dans la famille, dans la fratrie, c'est une trahison des parents. Enfin, la trahison, ça fait partie de la vie. Elle est vraiment inscrite dans la trahison même de soi par rapport à soi, c'est-à-dire ce qu'on aurait voulu faire et ce qu'on finit par faire. Donc l'expérience de la trahison, je ne pense pas qu'on puisse traverser la vie sans la faire, d'une manière ou d'une autre. Et oui, ça m'intéresse de voir, en fait... Ce qui m'intéressait au-delà de la trahison, c'est l'étrangeté radicale de l'autre, quel que soit cet autre.
Qu'est-ce que vous appelez l'étrangeté radicale ?
C'est-à-dire que quelle que soit la relation d'intimité que vous puissiez avoir avec un autre, il y a quelque chose d'impossible à atteindre et à contenir, finalement. Et c'est là où cette Médée, elle rejoint la Médée antique, parce que la Médée antique... Il y a ce que les Grecs ont fait que nous n'avons plus réussi à faire après, malheureusement, en littérature. C'est ce travail sur ce qui surgit en nous d'archaïque et d'impossible à contenir. Et que toute la culture, tout le processus de ce qu'on appelle la civilisation va tenter de contenir. Les Grecs ont eu la puissance de l'exhumer. Et en le donnant à voir, en fait, vous savez que dans le monde grec, le théâtre grec, enfin la tragédie, tragos, c'est le taureau qu'on égorge. C'est ça, Tragos. Et la tragédie, c'est le cri du taureau au moment où il est égorgé, où il est sacrifié. Donc c'est un travail sur le sacrifice. Et moi, ce texte, c'est un travail sur le sacrifice. Ismaël, c'est quand même le fils d'Abraham dans les textes bibliques. Hein. Et du coup, Abraham, eh bien, vous savez, c'est quand même le premier de la lignée prophétique des religions monothéistes, quand même, c'est pas rien. Et quelque part, il doit sacrifier son fils. Et qui sauve le fils ? C'est Dieu le Père. Hein, c'est Dieu, c'est celui qui est au-delà de l'humanité finalement, c'est celui qu'on doit adorer dans sa dimension indicible et indescriptible. Et donc Ismaël, c'est celui qui devait être sacrifié, et chez moi, il est transformé en celui qui sacrifie. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est sacrificateur aussi. Vous voyez, qui est sacrifié? La victime, le bourreau, les deux. Voilà, c'est vraiment ce travail-là. C'est plutôt, disons que le texte de Médée, ça tourne autour de cette question-là, plus que la trahison. La trahison, c'est, oui, bon, ok, c'est la question de la modernité, quoi. Hein, c'est ce que les hommes font aux femmes, c'est MeToo, c'est tout ça. Non, c'est pas ça. J'espère que c'est plus fondamental, ce travail-là.
Mais finalement, on peut passer 25 ans, 30 ans avec quelqu'un sans savoir qui il est?
Ben, visiblement, oui. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a quelque chose, oui, oui.
Sans savoir vraiment qui il est?
Je crois que même on peut passer 50 ans avec soi sans savoir qui on est.
Non, mais ça, c'est soi-même.
Mais c'est plus viscéral encore, c'est plus radical. C'est-à-dire que finalement, ne sachant pas qui vous êtes, au fond, vous avez tout le temps des réactions qui vous surprennent de vous-même. Ça peut être des réactions de colère, ou des réactions d'intolérance, ou des réactions de... Alors que vous pensez autrement, finalement. C'est l'écart qu'il y a entre, encore une fois, entre ce qu'on est et la représentation de ce qu'on est. Et finalement, donc bien sûr, oui, on est étranger à soi-même et les autres nous sont étrangers. Et finalement, on construit, on tisse des liens, on tisse des ponts en permanence. On espère apprivoiser l'autre et s'apprivoiser soi-même dans l'autre aussi. Et qu'est-ce qu'on réussit à apprivoiser et qu'est-ce qu'on ne réussit pas à apprivoiser?
Qu'est-ce que vous pensez de la dernière phrase de votre livre?
La dernière phrase, dites-la moi.
Si elle peut, de mémoire.
Oui, si elle peut. Oui, oui.
De mémoire. Hein, mais
oui, oui, vous avez raison. C'est une suspension, bien sûr, de l'histoire. En fait, ce n'est pas un point final. Encore une fois. Ben oui. Ben oui, Médée a la chance, c'est une chance incroyable, hein, de rencontrer Tania. Et puis aussi...
On va raconter la suite, mais enfin, finalement, on peut imaginer qu'elle va se réinventer.
Voilà.
Qu'elle peut se réinventer.
Elle peut.
Ouais, elle peut.
Si elle peut. Elle peut si elle peut. Après, la puissance de vie... Hein, la vitalité qui permet de dépasser le choc, c'est-à-dire ce qui surgit en fait. Moi j'aime beaucoup le terme, je dis tout le temps, mais bon, je me répète parce que voilà, quand on fait des radios, on dit tout le temps la même chose, mais c'est vrai. Ce qui en fait.
J'espère que vous avez gardé des choses que vous avez nulle part.
Non, non, mais oui, là vous avez des choses qui. Ouais. Mais non, mais en fait, c'est Akidit. Akidit, c'est l'accident. Vous savez, Akidit est très fort. Bah, Goscinny l'a transformé en le ciel qui tombe. Les Gaulois, ils ont peur que le ciel tombe sur la tête. Mais on a tous peur que le ciel tombe sur la tête, finalement. Et Médée, le ciel tombe sur la tête d'une manière. Mais ça peut être n'importe quelle perte. Ça peut être la perte d'une personne chère. Ça peut être la perte d'un pays, d'un monde.
C'est un événement qui subit l'accident.
C'est l'accident.
C'est l'accident.
Voilà. Et comment on surgit ou on ne surgit pas de l'accident? Voilà. C'est aussi. Vous savez, je suis très, très touchée par ces histoires de réfugiés en ce moment. Et la manière dont finalement l'accueil se fait ou ne se fait pas, c'est quelque chose qui me touche, qui m'agite. Je viens du Maroc en plus, où c'est pas un pays en guerre, mais en même temps les gens partent parce que ils fuient une misère, ils rêvent d'un ailleurs. Et puis, mais voilà, il y a des gens qui partent parce que leur pays sont en guerre, parce que c'est invivable, c'est vraiment proprement invivable. Et la manière dont l'accueil ne se fait pas. Me perturbe, vous savez, ces histoires de bateaux qui tournent en Méditerranée comme ça, avec aucune terre pour recevoir des humains. Oui, c'est-à-dire la terre inhabitable, vous vous rendez compte?
D'ailleurs, les bateaux tournent dans le monde entier, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas qu'en Méditerranée qu'on ne veut pas accueillir les gens qui migrent. Hein.
Mais oui, donc, et donc du coup, vraiment, ça pose la question de ce qui est habitable et en soi, pour les autres. Et qu'est-ce qui fait si peur? Quel est ce visage de l'autre qu'on ne peut pas recevoir en soi sans risquer d'imploser? C'est ça aussi la question qui est posée.
Yasmine Chami, votre livre s'appelle Médée chérie aux éditions Actes Sud. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui dans le Book Club. Et dans un instant, je vous propose d'écouter l'interview depuis New York de Meryem Alaoui à l'occasion du prix Beurre FM Méditerranée, puisque c'est le lauréat cette année. Vous savez que Beurre FM s'associe à TV5 Monde et son livre s'appelle La vérité sort de la bouche du cheval.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bonjour Meryem Alaoui et bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour.
Voilà, alors c'est le matin chez vous, hein, c'est l'après-midi chez nous à Paris, mais chez vous c'est le matin puisque vous êtes de l'autre côté de l'océan Atlantique.
Tout à fait. Nous sommes samedi matin et il fait beau.
Voilà. Mais vous êtes dans quelle ville, Meryem Alaoui?
Je suis à New York.
Alors, je vous appelle pour vous féliciter puisque votre livre La vérité sort de la bouche du cheval, aux éditions Gallimard, et lauréat du prix Beurre FM Méditerranée TV 5 Monde. C'est votre premier roman. J'avais toujours j'avais toujours entendu dire que la vérité sort de la bouche des enfants, mais dans votre livre, il sort de la bouche du cheval. Alors, bouche de cheval, c'est un surnom que votre héroïne donne à une réalisatrice qui s'intéresse à elle. Ça lui vient d'où, ce prénom? Pourquoi elle la surnomme bouche de cheval?
Tout d'abord, je suis très contente. Hein. Merci pour votre appel. Pourquoi elle la surnomme bouche de cheval? Parce que, en fait, voilà, l'héroïne, Jumeirah, qui est une prostituée de Casablanca, rencontre cette jeune femme qui a de grandes dents, une grande bouche, et voilà, en bonne marocaine, et ben, elle la pub d'un surnom, et la première chose que lui inspire sa vision, c'est ça, c'est bouche de cheval.
Voilà, elle est toute maigre, avec une bouche pleine de grandes dents, c'est donc ça.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Une bouche pleine de grandes dents et une touffe de cheveux sur la tête.
Alors, qui est Jumeirah, votre héroïne?
Qui est-elle? C'est ça la question?
Oui, qui est-elle?
Écoutez, c'est une prostituée de Casablanca. Elle a 34 ans. Elle est mariée, divorcée. Elle travaille. Elle a des parents. C'est quelqu'un qui est issu d'une famille plutôt modeste. Mais
elle a surtout une mère et une fille.
Elle a une mère et une fille, exactement. Elle a une petite fille. Et c'est quelqu'un qui a une très très forte personnalité, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Et donc, voilà, elle se retrouve par les aléas, en fait, de la vie dans cette situation où elle se prostitue. Voilà, c'est une situation qu'elle vit sans questionnement.
Ça fait 15 ans hein, qu'elle marche sur les trottoirs de Casablanca, elle connaît toutes les coulisses du métier. Quel regard elle dresse sur sa profession? Finalement, on a l'impression qu'elle le fait comme tout ce qu'elle fait, normalement.
Tout à fait, c'est quelqu'un qui se pose pas, c'est exactement ce que je disais il y a un petit instant, c'est qu'elle ne se pose pas, elle ne pose pas de questions, elle se dit pas pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, comment ça se fait, voilà, elle en est arrivée là, et elle n'a pas de temps, en fait. Jumeirah, c'est une personne qui n'a pas de temps à consacrer à des questions qui pour elle sont parfaitement inutiles. Elle a un quotidien dans lequel elle doit vivre, survivre, et voilà, et elle vit au jour le jour.
Finalement, c'est un caméléon. Hein. Elle est très adaptable.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Grande capacité d'adaptation.
Est-ce que c'est une mec-to-biste?
Est-ce que c'est une mec-to-biste? Peut-être. Oui, je dirais que oui, quelque part. Oui et non. Oui, dans le sens où elle accepte certaines choses. Elle accepte les choses sans trop se poser de questions. Non, dans le sens où c'est malgré tout une battante qui essaye de... qui change ce qu'elle peut changer. Donc je crois que quand elle a une influence sur les choses, oui, elle combat, mais elle accepte aussi ses limites. Et dans ce sens-là, oui, quelque part, elle intègre le mektoub à son quotidien.
C'est une prostituée, en tout cas, dans la première partie du livre. Mais ce qui peut être paradoxal, c'est qu'elle prend parfois du plaisir. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment en tant que lecteur que j'ai eu à faire ce métier.
Bah écoutez, vous savez, comme dans toutes les situations de la vie, il n'y a pas que de la tristesse, même quand on fait un métier difficile, il y a des moments heureux. Donc je crois que c'est valable pour tous les métiers, la prostitution, y compris la prostitution, parce qu'elle a malgré tout certains des clients qu'elle aime bien, qu'elle apprécie, dont un en particulier qui est son petit ami, mais qui est aussi un client, elle a des copines, donc il y a une vie, hein, et ça c'est valable dans tous les métiers, et même dans la prostitution.
C'est pas le plus beau, mais c'est celui qu'elle préfère.
En tout cas, c'est celui qu'elle fait. C'est peut-être pas nécessairement celui qu'elle préfère ou qu'elle aurait aimé faire dans une situation idéale, mais c'est celui qu'elle exerce.
C'est une fille qui considère que finalement, quand on n'a qu'une vie, il faut la vivre.
Exact.
Elle parle sans retenue. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est sans filtre. Elle a une vraie liberté de langage, mais c'est quand même un langage qu'on a rarement l'habitude d'entendre dans la bouche d'une femme maghrébine.
Peut-être parce que la parole ne leur est pas donnée. En tout cas, en Occident, mais je crois que Jumeirah parle comme une prostituée parlerait à Casablanca. C'est des milieux dans lesquels, en fait, c'est pour exercer ce métier, il faut quand même avoir une certaine, ben justement, une certaine liberté, même si elle n'est pas nécessairement choisie au départ. Il y a le poids de je sais pas, du regard des autres, de la société, de la famille. Donc, c'est des femmes qui sont nécessairement fortes et souvent libres, non pas dans les libres quelque part intellectuellement. Il y a une forme de liberté qui va avec ça.
Ouais, elle est vraiment très très libre et en plus elle connaît pas le sentiment de culpabilité.
Alors je ne sais pas si elle le connaît pas, mais en tout cas là pareil, encore une fois ça revient aux questions qu'elle se pose. C'est-à-dire quand on se pose la question de savoir est-ce que ce que je fais est bien ou pas bien, ou quand on a le temps de réfléchir à ça, parce que souvent on n'a même pas le temps de réfléchir à ça. Quand on a le luxe et le loisir de pouvoir se poser ces questions, la culpabilité peut venir. Mais quand on n'en est même pas au stade où on se les pose, il n'y a pas de culpabilité nécessairement puisqu'il n'y a pas de question.
Alors son idole, c'est la diva marocaine Nadia Tatabou. Et je dois dire qu'il y a une scène dans votre livre où elle fait la lessive. Enfin, pas Nadia Tatabou, mais Jumeirah. Elle fait la lessive et elle écoute Nadia Tatabou. Ouais, et là, on frise l'hystérie.
Oui, tout à fait. C'est une grande fan de Nadia Tatabou qui est une chanteuse marocaine extrêmement libre, très très forte. C'est une femme de caractère qui chante l'amour dans ses chansons, qui chante la trahison, qui chante les femmes, qui chante la lâcheté des hommes, des choses comme ça. Et donc Jumeirah, ça lui parle énormément. Elle s'identifie en fait complètement au message des chansons de Najat et à la personnalité de Najat aussi, qui est quelqu'un qui fait je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir une photo de Najat Tatabou.
Ah non, mais attendez, là vous êtes sur Beurre FM, non seulement j'ai vu des photos de Najat Tatabou, j'ai vu des concerts de Najat Tatabou, non,
ah, voilà.
C'est la grande diva, c'est une diva.
Voilà. Elle a une vraie présence, une vraie personnalité, et donc quelque part, oui, c'est un modèle pour elle.
Ouais, elle lui tient compagnie, elle chante sa vie, enfin bref, c'est quelqu'un de très important.
Ouais. Quel
rapport elle a avec la nourriture ?
Il y a un seul moment en fait dans l'histoire où elle a un rapport un peu conflictuel avec la nourriture, ce qui au départ, vous le savez, au Maroc, dans les pays du Maghreb et en général dans le sud, on aime bien les femmes fortes, donc il n'y a pas vraiment de complexe par rapport à la nourriture ou de questionnement, puisque voilà, au contraire, c'est bien de manger, c'est bien de grossir, c'est bien d'avoir des formes, c'est bien d'être généreuse. Quand on est mince, on n'a pas un grand sex-appeal, hein, donc en général, l'avantage de ça, c'est que la relation à la nourriture est plutôt pacifiée, parce qu'il n'y a pas de limite. Il y a un moment d'histoire où ça se corse un peu pour elle au niveau de la nourriture, c'est que, sans entrer dans les détails, mais quand elle a un accident et elle grossit beaucoup, et là, elle sent qu'en fait ça risque de l'handicaper. Et à ce moment-là, elle perd du poids, mais en revenant, c'est-à-dire que le poids auquel elle revient, c'est pour une occidentale, déjà elle serait en surpoids de 30 kilos, 40 kilos.
L'action se déroule de l'été 2010 à nos jours. On traverse le début du printemps arabe, et pourtant vous en parlez peu finalement dans votre livre. Pourquoi ?
Parce que pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que c'est une coïncidence. Il se trouve que l'histoire. J'ai commencé à rédiger, à écrire ce roman le jour où l'action commence, en fait. Donc c'était vendredi 11 juin 2010. Et puis bon, quand j'ai continué, je me suis retrouvée en 2011. Et puis ça c'est d'une part. Donc le fait qu'on parle du printemps arabe, c'est simplement parce que c'est le calendrier qui a voulu ça. Et la deuxième raison, c'est que l'histoire est racontée depuis la perspective de Jumeirah, depuis son prisme à elle. Et Jumeirah, le printemps arabe, elle en a un peu rien à foutre, quoi.
Ouais,
donc on n'en parle pas. voilà, quand elle croise ça, pour elle, c'est
oui.
les questions qu'elle se pose, c'est est-ce que ça va me faire plus de business ou pas, est-ce que ça va me faire plus de soucis ou pas. Elle voit ça à travers son regard, mais elle a aucune, à aucun moment elle pense que ça pourrait affecter ou changer sa vie en quoi que ce soit. Elle se sent pas concernée.
Marie Malawi, combien de temps vous l'avez porté ce livre?
Aucune idée, parce que je ne savais pas que j'allais écrire un livre sur ce sujet. J'en sais strictement rien. J'ai vécu dans le quartier où évolue Jumia pendant 8 ans. Mm-hmm. Je m'y suis promenée tous les jours presque. J'aimais bien écouter ces femmes, les suivre, suivre leurs aventures. En fait, j'aimais bien savoir ce qui se passait dans leur vie, mais je savais pas du tout que j'étais en train de collecter de la matière pour écrire un livre. Donc je ne sais pas.
Et quand avez-vous commencé à l'écrire?
Eh ben le vendredi 11 juin 2010.
Et on est en 2019. C'est-à-dire que ça vous a pris tout ce temps pour l'écrire, ou ça vous a pris tout ce temps pour être édité?
Ah oui, non, ça m'a pris tout ce temps pour être édité plutôt, parce que je l'ai écrit en l'espace de un peu moins d'un an, en 9 mois. Et après, je l'ai laissé un peu reposer, j'ai un peu retouché, et puis ensuite, voilà, c'est le temps que ça a pris pour qu'il soit édité. Il a été refusé au départ plusieurs fois, et puis ensuite il a été pris, ensuite il est resté dans un tiroir, et puis ensuite il a été pris, voilà.
Mais c'est-à-dire que ça a pris combien de temps entre le moment où vous l'avez envoyé et le moment où il a été publié?
Écoutez, j'ai fait une première vague d'envoi qui n'a pas abouti, donc c'était juste après l'écriture du roman. Et puis ensuite, je l'ai laissé dans un tiroir, et je vous avoue que la deuxième fois, le deuxième envoi, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon mari qui un jour a pris le fichier de mon ordinateur et qui l'a envoyé. Alors que voilà, pour moi, il était, je savais pas du tout qu'il avait fait ça jusqu'à ce que je reçoive un mail de l'éditeur qui me dise, ben voilà, je suis intéressée.
Bon, vous savez qu'à la fin, quand j'ai fermé le livre, je voulais absolument connaître la suite de ces aventures. Est-ce que vous allez écrire la suite?
Non, je ne pense pas. Non.
Bon, voilà. On la laissera donc où elle est.
Voilà, on va laisser lui finir poursuivre ses aventures.
Poursuivre ses aventures mexicaines sans nous.
Voilà.
À noter que le livre ferait l'objet d'une adaptation au cinéma. Vous travaillez dessus?
Pas encore, c'est en discussion, donc on est en train de voir avec une maison de production qui est intéressée, donc on verra. Si ça se concrétise, oui, je travaillerai sur l'écriture du scénario aussi.
Bon, il y a un glossaire à la fin de votre livre. Dès le départ, vous pensiez faire un glossaire, ou il s'est rajouté par la suite?
Non, il s'est rajouté par la suite, parce qu'en fait, au début, j'ai écrit, et puis certains mots n'étaient pas évidents à traduire, ou alors leur portée n'était pas évidente à exprimer en mots, et puis vu qu'il y en a eu pas mal à la fin, l'idée du glossaire s'est imposée.
Myriam Alaoui.
Voilà.
Voilà. Bah, écoutez, je rappelle que votre livre, La vérité sort de la bouche du cheval, aux éditions Gallimard, est lauréat du prix Beurre FM Méditerranée TV5 Monde. Merci de nous avoir accordé cet entretien depuis New York aujourd'hui.
Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis ravie et je suis flattée. Merci infiniment.
Merci. Au revoir, Myriam.
Au revoir.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.